Système de guidage.
Branché.
Pilote automatique.
Présent.
Indicateur de matière obscure.
Il fait un bruit.
Tous les systèmes opérationnels. C'est parti.
Ça va vous secouer un petit peu.
Voilà ce qu'il fallait dire à ce bon peuple. Voilà ce qu'il fallait dire.
C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu.
Et voilà le travail.
Et c'est là aussi où il faut contre-attaquer et ne plus être assujetti à cette horde médiatique qui nous oblige politiquement et syndicalement à nous poser les questions que nous ne nous posons pas.
Hier, j'ai regardé la télé. Il y avait un mec qui disait qu'il faut réduire le coût du travail. Même que c'est ça qui fera baisser le chômage. Je me suis dit, pas con, le chômage, c'est pas bon, faut le faire baisser.
Ce matin, à la radio, un autre mec nous explique qu'il faut libérer les entreprises de transport. Parce qu'il y a bien trop d'entraves, que ça va créer de la valeur, ça veut dire des thunes, et de la rentabilité. Je me dis, c'est bien vrai ça, c'est la liberté qui doit guider le peuple.
Ah ouais, ça je connais, hein. Tous ces crèves-la-dalle plaintifs sur leur radeau, peinards, à se boulotter les uns les autres sans se mettre au boulot. La croisière me méduse. C'est la télé qui le dit, j'ai grogne. Les bestiales, cette révolte.
Boulotteur, paresseux, profiteur, racaille, inadapté, alcoolique et consanguin. Ah, devant nos hublots, ce qu'on est bien pourtant. Qu'ils sont beaux, ironiques, distingués et experts, nos économistes, nos politologues communicants. Ça, c'est la vraie vie.
Ouais, mais la vie de qui? La vie des autres, hein, parce que nous, on regarde. Faut reconnaître, on est moche, premier degré, déglingué, on n'a pas d'économie et plus de politique comme des cons, c'est ça notre vie, Mehdi, Jean-Jacques. On a notre part de libre arbitre quand même. Tu crois vraiment que la télécommande?
Ah, chénin, manchoseb. Mais ce qui est sûr, c'est que...
Il y a des yaourts à la pêche et d'autres aux noyaux de pêche. Il y a des yaourts aux brugnons, neuf les potirons. Des yaourts aux fruits sauvages, ceux qui vous mordent au passage. D'autres aux fruits du verger, qui sont sans danger. Y'a des ya-ya, y'a des yaou, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaou, y'a des yaourts à tout.
C'est Radio Campus, il est 8h03, vous écoutez Travaille ta gauche, l'émission qui devrait surveiller sa droite.
En FM sur 106,6 ou à campuslille.com pendant une heure et tous les 15 jours, nous nous adresserons à votre entendement.
Quand les médias traitent de la résistance sociale, ce n'est plus une récréation, c'est un enjeu de classe.
Et pour y penser, nous entendrons des extraits de la conférence donnée au siège de la section lilloise du Parti communiste français ce jeudi 16 octobre.
Avec Gilles Balbastre, co-réalisateur des Nouveaux Chiens de Garde, Ludovic Finet de Liberté Hebdo, Laurence Moriaucourt de L'Humanité.
Visage abattu. Des regards un peu perdus.
Alors, il a dû avouer,
les salariés d'Aulnay sont sous le choc.
Pour faire...
14h, les deux équipes de l'usine se
croisent. Le 12 juillet, quand l'annonce de la fermeture tombait, que les journalistes allaient venir avec les caméras filmer des ouvriers en pleurs. Et on avait prévenu le plus possible de camarades que quand on est dans un statut de victime, l'ouvrier qui est victime du méchant patron, ça passe. Voilà, ça passe. À partir du moment où on se met en combat, en ordre de marche, en ordre de bataille, on se met à combattre, qu'on commence à déranger par nos actions, par notre grève, etc. Là, on passe plus dans les médias.
La bourse du travailleur,
c'est la grève.
La bourse du travailleur,
c'est la grève.
Il y a 200-300 grévistes. Il y a
480 exactement.
Oui, oui. Et il y a 2800 salariés, c'est-à-dire que 5 fois plus qui ont envie peut-être de travailler. Non, mais ça c'est autre chose. La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile. Mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile. Mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. Quand on lit le tract...
Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'il finit, il m'interroge sur un point précis. Je lui réponds. Et lui, il se permet de remettre une couche derrière et de passer au sujet suivant. Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui a le micro, etc. Et c'est ça qui est dégueulasse chez El Kabach ou ce genre de type. C'est qu'ils se permettent d'avoir le dernier mot en disant eux ce qu'ils pensent. De tous les journalistes que j'ai croisés, c'est le seul, après l'émission, qui m'a fait ressentir son mépris social, sa prétention, son côté hautain, son côté, mon pote, un ouvrier, moi je suis le cabache.
Nous on regarde les médias, le gars qui fait pas de politique, on se fait tous balader par les médias. Quelque part on se fait tous balader par les médias. On regarde avec nos yeux, on n'a pas forcément les moyens toujours de comprendre, ou d'expliquer, ou d'avoir du recul. Là ce qui est bien, c'est que pendant la grève, les gars ils se regardent. On se regarde dans un miroir, on se regarde à la télé, on se regarde dans les infos. Puis quand on se regarde dans les infos, quand on parle de nous, on dit « mais non, ça ne me ressemble pas du tout ». Donc on a fait notre expérience durant les 3 mois, et c'est vrai que maintenant, y compris beaucoup de gars, quand ils regardent les infos, ils regardent différemment. Ils se disent « ils ont menti sur nous, pourquoi ils ne mentiraient pas sur autre chose ?»
C'était Jean-Pierre Mercier de la CGT PSA Aulnay, chez Jean-Pierre Elkabbach d'Europe 1.
Vous entendez Travaille ta gauche sur Radio Campus.
Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté. On se doit d'œuvrer parce que leur monde pue la mort. Que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle, perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même four à faire du destin collectif une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique.
Il se trouve que la matinale de RTL, donc vendredi, il y a une semaine ou deux semaines, bon, non forcément il y a 2 semaines, puisque c'est paru dans Liberté Hebdo la semaine dernière. Bon, j'avoue, je connaissais pas cette émission, mais apparemment, les matinales de RTL, de temps en temps, se déplacent sur le terrain. Il se trouve que là, entre 4h30 et 7h du matin, ils étaient à l'usine Toyota d'Onin. Il se trouve que le même jour, la CGT distribuait un tract aux portes de l'entreprise pour parler de la situation d'une jeune salariée de 23 ans qui avait... commencer dans la vie professionnelle là à Toyota en tant qu'intérimaire peu de temps avant. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une semaine de mémoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, donc elle devait être dans l'équipe du matin, puisque ça s'est passé à 7h du matin, elle a bien gentiment entendu la pause de 7h pour aller à l'infirmerie et leur dire « écoutez, voilà, il y a des odeurs de solvant, je suis pas bien, je suis enceinte également. Bon, on lui conseille d'aller voir son chef d'atelier à qui elle raconte les choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'apparemment, s'il y avait des odeurs de solvant, c'est parce qu'il y avait des portes qui fermaient mal depuis 3 ou 4 jours. Donc elle explique ça à son chef d'atelier qui apparemment lui dit bon, bah, ok, rentre chez toi, pas de problème. Sauf que l'après-midi, elle reçoit un coup de fil de son agence d'intérim qui lui dit bon, ben. C'est pas la peine de retourner à Toyota Onin demain. Bon, pourquoi ? Voilà, votre période d'essai, elle n'est pas concluante, elle s'arrête là. Or, apparemment, visiblement, la période d'essai était déjà terminée. Évidemment, ça tombe juste au moment où elle annonce à son chef qu'elle est enceinte. Donc, on peut avoir quand même plus que des doutes sur le motif réel du licenciement. Et pendant ce temps-là, sur RTL, pendant 2h30, on n'en a pas eu un mot. Alors que la rédaction était au courant, ça le responsable de la CGT Toyota me l'a assuré. Il m'explique que le correspondant régional était au courant depuis au moins l'avant-veille. Je jette pas forcément la pierre parce que c'est pas fort. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas qui a décidé de ne pas diffuser l'info. C'est pas forcément lui. Il a peut-être effectivement, comme il l'a dit, fait remonter l'info. Sauf que ce jour-là, visiblement, le ton était. Moi, j'ai écouté. Hein, j'ai écouté toute l'émission. Le ton était beaucoup plus au publier reportage. Hein. Si vous cherchez un peu sur Google, vous verrez qu'un militant de la CGT Toyota a tout enregistré, tout mis en ligne. C'est assez hallucinant, quoi. Cette usine, je ne comprends pas pourquoi vous n'y bossez pas tous, parce que c'est vraiment c'est le pays des bisounours, quoi. Et quand même, parce que le devoir journalistique doit de temps en temps les tarauder tout de même, quand tout de même on commence à vaguement aborder la question des conditions de travail, c'est tout de suite pour dire derrière, oui, mais vous en faites pas, hein, ici tout est fait pour le et là je cite les mots exacts, pour le bien-être et la sécurité, le bien-être des salariés. Donc voilà. Et quand je vais m'arrêter là parce qu'après on pourrait être très très long, mais quand on sait les sujets qu'on a traités sur les conditions de travail à Toyota, sur le toyotisme qui a été copié dans toute l'industrie automobile et dans toute l'industrie en général, le lean manufacturing, pour ceux qui connaissent pas, allez voir un petit peu ce que c'est sur des moteurs de recherche, Lean, c'est maigre, hein, c'est vraiment les économies à toutes les échelles possibles, et c'est notamment, comme le résume le responsable de la CGT Toyota, c'est faire participer le salarié à sa propre exploitation, notamment en supprimant un poste par-ci par-là, sous couvert évidemment de management participatif.
Celui qu'on écoute, c'est Ludovic Finet, à l'espace Angela Davis, rue d'Artois à Lille. Il est journaliste à Liberté Hebdo, un hebdomadaire communiste en péril qu'on soutient en s'y abonnant. On lui a demandé s'il faisait un journalisme objectif.
Le journalisme objectif, je pense que dans la tête de beaucoup, c'est un petit peu, allez, on va caricaturer, mais dans la question, dans l'hypothèse d'un conflit social, c'est on tend le micro au patron, on tend le micro au représentant syndical, et puis à vous de vous démerder avec ça, faites-vous une opinion. Bon, je suis pas sûr que l'objectivité ou l'honnêteté ce soit ça. Nous, clairement, effectivement, quand on traite des sujets comme les conditions de travail à Toyota, on considère qu'il y a des vérités qui sont bonnes à dire, qui sont pas forcément dites. Bon, après, on va pas non plus jouer les malins. Moi, je lis de temps en temps dans la Voix du Nord locale des papiers intéressants aussi sur Toyota. La Voix du Nord locale a traité cette histoire de l'intérimaire remerciée entre guillemets quand elle a annoncé qu'elle était enceinte. Mais bon. Clairement, oui, moi je ne considère pas que donner la parole à l'un, donner le contre-argument à l'autre suffit pour faire un journalisme honnête. Moi clairement, et nous revendiquons à Liberté Hebdo le journalisme d'opinion. Oui, effectivement, mais nous on le revendique, clairement. La Voix du Nord fait du journalisme d'opinion, sauf que elle se cache derrière un mot d'ordre qui est plus. Nous sommes, alors je ne vais pas déformer les propos du directeur de la Voix du Nord, mais c'est quand même un petit peu ça. Nous voulons effectivement le plus exhaustif possible, la voie institutionnelle, etc., etc. C'est tout le monde fait des choix. Choisir de traiter une info, c'est déjà faire le choix de la traiter. Ne pas en traiter une autre, c'est faire un deuxième choix. La traiter sur telle longueur, c'est faire un troisième choix. La traiter avec tel interlocuteur, c'est un quatrième choix. On fait tous des choix, sauf que nous, on n'a pas, et à la limite, je pense qu'on en est même plutôt fiers, on fait du journalisme d'opinion. Donc, objectivité, non, je ne sais pas trop ce que c'est. Honnêteté, je vois à peu près ce que c'est. Et je ne pense pas qu'on déforme les faits pour défendre l'opinion qui transparaît dans les colonnes de Liberté.
Et c'est là aussi où il faut contre-attaquer et ne plus être assujetti à cet ordre médiatique qui vous oblige politiquement et syndicalement à nous poser les questions que nous ne nous posons pas.
Gilles Balbastre, journaliste et documentariste critique des médias dominants, commence par revenir sur l'affaire Toyota RTL.
Effectivement, RTL a quand même... Ce qu'il y a de plus savoureux, j'ai retrouvé quelques semaines avant, le 28 août 2014, il y avait une chronique de François Langlais, que vous connaissez tous, hein, puisqu'il est aussi sur France 2, et sa chronique, c'était « Surprotection du salarié, un frein à l'embauche ». C'est quand même assez savoureux, une telle chronique, quand une nana enceinte se fait virer. Parce que la chronique, c'était « Sous protection du salarié, une vanne à la débauche ». C'était plutôt ça, hein, je veux dire, dans le cas de RTL. Mais vous voyez jusqu'où peut aller un niveau de propagande. Montrez, moi j'étais en 90-93 au bureau de France 2. 93, c'est quand même une année de récession. Il y a 3 300 000 chômeurs, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça déglinguait pas mal aussi à l'époque, 93. Et moi, j'étais surtout effaré de jamais en parler. Parce qu'effectivement, on peut dire que c'est anxiogène et que ça fout le moral en berne. Mais moi, à France 2, on n'en parlait jamais. Ah ça, par contre, la première année où il y a eu la messe en ch'ti à l'église de Ouézin, je peux vous dire qu'on était tous, les caméras, etc. Il n'y avait jamais eu de messe en ch'ti dans le Nord, mais ça faisait vraiment bien. C'était avant Bienvenue chez les ch'tis, hein, c'était en 93. Et ça, on y était tous, c'est le soir de Noël pour raconter ce genre de conneries. Ou alors, effectivement, dès qu'il y avait un fait divers bien sanguinolent, là, on nous envoyait.
Alors qu'il y avait des centaines de licenciements avec des résistances. C'est-à-dire le combat, par exemple, des salariés de la Redoute a été un combat aussi intéressant. À Liberté Hebdo, ils en ont parlé. Enfin, il n'y a pas que des défaites. Il y a aussi parfois des défaites, mais avec des combats qui sont intéressants. Il y a un super documentaire que vous n'avez peut-être pas vu qui s'appelle La Saga des Conti. Certes, ils ont perdu, mais je veux dire, quand on regarde le documentaire, on n'a pas l'impression aussi qu'on part avec les bras qui baissent. On a envie de se battre. Vous voyez, Liberté Hebdo remplit cette fonction qui est importante et qui, hélas, n'existe quasiment pas. Enfin, on enlève Liberté Hebdo, on enlève l'humain. Le social, c'est peanuts, ça, dans la presse française. Hein. Le fait que les gens n'achètent pas ou peu ou moins Liberté Hebdo, moi, je suis absolument pas dans la théorie de l'offre ou la demande. Hein. Les médias ne fabriquent pas ce que les gens demandent. Hein. Quand j'étais au bureau de France 2, on nous répétait en gueule de journée que c'est ça que voulait la ménagère de 50 ans. C'est pas la demande qui est autonome, c'est la demande qui dépend de l'offre. Plus l'offre est matraquée, plus la demande se formate à cette offre. Je vous signale par exemple que l'Humanité est le dernier quotidien national européen à gauche. À gauche! Enfin, moi-même, je ne savais pas. C'est dans un débat à la Marseillaise, à Marseille, sur les 70e anniversaire où j'étais invité de la Marseillaise, où j'ai appris ça. Et je n'avais même pas tilté. À gauche, quand je vous dis à gauche, hein. C'est-à-dire vraiment à gauche, parce que les autres, c'est le dernier quotidien européen.
Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez les problèmes techniques, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du centre de terre-mer au pied du mur, presque pris au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression, mais aussi des épidémies, peut-être pour on ait peur de se rassembler ou juste pour puisse laisser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce de dents ou reste pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant.
Pour Balbastre, les médias dominants ont une stratégie: attaquer les résistances sociales.
Je pense que cet état est catastrophique, grave, voire criminel, qu'il y a un état de guerre de fait de plus en plus entre une majorité de médias et nous, et le mouvement social en général, l'aspiration progressiste de cette société, et que c'est encore plus. Voilà. Après, nouveau chaîne garde, ils ont atteint, ou ils continuent, un niveau aussi important, voire plus, d'attaque. Ça permet aussi de voir le décalage qu'il y a entre le rapport de force. Ils ont des moyens. J'oserais faire une comparaison qui est peut-être pas toujours judicieuse. C'est pas au niveau des dégâts, quoique, mais c'est grosso modo Israël contre Gaza. Les moyens qu'ils ont, les moyens de force. Alors, on me dit, tu peux pas, c'était au Festival du Zest, vers chez moi, là, de Bernard Levin, tu peux pas comparer quand même parce qu'il y a eu des morts. Enfin, je veux dire que ce combat-là entraîne des morts. Hein. Le nombre de gens, et tu le disais tout à l'heure au juste titre, qui sont désespérés, qui souffrent, qui sont licenciés, qui tombent dans l'alcoolisme, la dépression, qui se suicident, le nombre de morts qu'il y a dans les entreprises de services publics, est-ce qu'elles sont pas les conséquences d'un travail médiatique de sape, de destruction. Je vous parlais donc des grèves, mais je vous parlais effectivement de ce qu'imposent les journalistes, les médias, comme questions qui deviennent des questions qu'on ne se pose pas forcément. Regardez là aussi, hein, suite aux grèves, ça donne ça. Alors grève SNCF, faut-il craindre un week-end noir? Faut-il interdire aux fonctionnaires de faire grève? C'est anticonstitutionnel, c'est le genre de questions qui se mettent à poser. Faut-il limiter le droit de grève en période de vacances? C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils imposent un agenda de questions qui ne sont pas des questions de la majorité des gens. Faut-il limiter le droit de grève en période de vacances? Vous voyez, ils le font à plusieurs. Hein. Faut-il limiter les grèves? Vous voyez, c'était BFM, Europe 1. Faut-il encadrer le droit de grève dans le transport aérien? Faut-il en finir avec les 35 heures? C'est pas, pour le moment, c'est pas le cas. Faut-il supprimer les 35 heures? Il y a aussi un sondage. Faut-il revenir sur les 35 heures? Faut-il modifier la loi sur le travail le dimanche? Faut-il supprimer des vacances pour relancer l'économie française? C'était avant que Gattaz le propose. C'était le 27 juillet 2013. Le 25 juillet 2013. C'est pas un hasard si Gattaz l'a mis dans son programme. C'est posé en préalable d'une façon récurrente par des médias.
Donc c'est pas Gattaz qui l'a inventé. Ce sont les médias qui l'ont inventé en posant des questions que personne ne se posait. Et où ils, demandent, où ils nous demandent de répondre. Donc là aussi, vous avez un genre de toile de fond qui avance, absolument pas masqué. Faut-il supprimer les billets gratuits dont bénéficient les cheminots de leur famille, hein, voyons. En plus, vous avez vu, qui oppose les groupes sociaux les uns contre les autres, qui les oppose, qui crée de la tension, de la haine, de la jalousie. Hein? Donc, quand je vous dis que l'État est grave et même très conflictuel, et même ça pose un certain nombre de problèmes d'équilibre démocratique, ce n'est pas du bluff.
L'amélioration de la compétitivité, et on sait bien que dans la compétitivité, il y a un facteur hors coût, oui. Un facteur coût, oui. Et il y a un facteur coût dans le coût du travail, et qu'à court terme,
le coût du travail est trop cher en France.
La France reste l'un des pays les plus chers d'Europe pour le coût de sa main-d'œuvre. Nous sommes, Axel de Tarlé, nettement plus chers que l'Allemagne.
Aujourd'hui, la politique fiscale en France a atteint les limites de l'acceptabilité. La France est de loin le pays où les entreprises paient les impôts les plus élevés. Et ça, c'est un problème pour la croissance et l'emploi.
C'est la douche froide. Hein. Eurostat a publié hier ce Hit Parade 2013. Donc on a comparé les coûts du travail dans 28 pays européens et nous sommes 5e.
Et c'est une bizarrerie française. Malgré la forte croissance du chômage, les salaires augmentent à peu près comme avant. Alors que dans la quasi-totalité des pays européens, y compris l'Allemagne, les salaires ont stagné, voire diminué en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Grèce.
Ça n'est pas normal qu'en temps de crise, les salaires augmentent de 1,7% alors que l'activité ne bouge pas, l'activité est la même.
Le constat est absolument indéniable. La courbe du chômage en France suit la courbe des hausses de salaire. Et oui, le SMIC est trop haut, à 9,53 € brut de l'heure.
Attention, attention, le SMIC est bien une machine à détruire des emplois qui ne profitent pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au bas salaire.
Le problème du SMIC pour les jeunes est un verrou qu'il faut faire sauter.
Réduire le coût du travail. L'objectif, on le sait, c'est que les entreprises puissent dégager plus de marge pour investir, embaucher et monter en gamme.
Pourquoi ne pas créer, on appelle ça des petits boulots, c'est un peu péjoratif, enfin des boulots, du travail, payés moins que le SMIC.
Il vaut mieux que quelqu'un, en effet, ait un travail, même de 20 heures, de 25 heures, qui soit payé sous le SMIC.
J'appellerais pas ça des petits boulots, oui. Je vois pas en quoi ce sont des petits boulots.
Et qui puisse avoir le pied dans l'entreprise.
Et donc vous pouvez essayer de mettre comme ça des jeunes le pied à l'étrier.
Un petit boulot, c'est mieux que pas de boulot.
Qu'ils puissent y accéder, on le baisse, ce SMIC, en baissant les charges.
Moi je pense qu'il vaut mieux des petits boulots à 500 € que pas de boulot du tout.
D'accord.
C'est ce que je pense.
Il vaut mieux vivre avec 80% par exemple d'un SMIC net de 1140 et quelques euros qu'avec rien du tout, qu'avec zéro.
Le pied à l'étrier, oui, oui, et c'est une... Oui, oui, et les entreprises vont être intéressées. Ouais. Après, vous avez des groupes d'experts sur le SMIC, qui sont absolument pas des experts de droite, des économistes libéraux, qui sont des gens généralement plutôt modérés, voire plutôt à gauche.
Et je crois que tous les économistes un peu sérieux, de droite ou de gauche, c'est qu'il y a un problème de coût du travail au niveau du SMIC pour des jeunes qui sont non qualifiés et qui n'ont aucune expérience professionnelle.
Je connais des gamins qui ont 15 ans, dont les parents n'ont jamais bossé. Et là, quand je discute avec eux, on n'est pas sur la même planète.
Je rappelle que ce sont des jeunes qui sont sortis du système scolaire, souvent, en sachant à peine lire et écrire, parfois. Hein, donc oui. Il y a quand même un vrai problème.
Des quantités de gens, c'est le métier qui sont quand même pas des perdreaux de l'année, si vous voulez, et qui ne s'amusent pas à agiter ce genre de questions socialement périlleuses pour rien.
Expérimentons.
Et on revient à des solutions anciennes qui étaient d'avoir des SMIC en fonction des régions. Le prix de l'immobilier n'est pas le même en Lozère qu'à Paris. Ou des SMIC en fonction de l'âge. Souvenez-vous, le CPE, le SMIC jeune qui avait mis les jeunes dans la rue. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne les mettrait pas dans la rue.
Faisons-le sur quelques bassins d'emploi particulièrement sinistrés.
Une expérimentation.
Où le taux de chômage est à 40%.
Mais vous savez, les idées qu'avance Pascal Amy sont des idées qui ont été avancées depuis très très longtemps. Et tous les gouvernements, depuis une vingtaine d'années, tournent autour du pot.
Si vous m'aviez posé la même question il y a 20 ans, j'aurais dit, c'est contraire à mes principes. Mais de temps en temps, oui. Quand il faut traiter un problème ultra grave, si on utilise toujours les vieilles recettes, on n'y arrive pas.
Balbastre a toute une flopée d'exemples précis de ses attaques.
Axel de Tarlé, je ne sais pas si vous connaissez Axel de Tarlé, c'est important, il va falloir refaire un film parce que c'est des. Bon, nous, on avait utilisé les vieux aux craintes, du Hamel, etc., hein, Geoffrey. Il y a les jeunes, Axel de Tarlé, enfin, c'est un jeune, pas si jeune que ça, mais c'est l'éditorialiste économique d'Europe 1 qui a une émission, c'est-à-dire sur France 5, enfin, il cache tonne un peu partout. C'est ça. En plus, ces gens-là ont une caisse de résonance énorme. Ils passent dans différents médias. Et donc, ils amènent cette propagande-là. Écoutez quand même, ça vaut le coup.
Alors, ce matin,
alors, écoutez un peu la question que pose Axel de Tarlé à Jean-Claude Mailly sur les seuils sociaux. Et écoutez quand même la neutralité de la question.
Une réunion entre les syndicats de salariés, donc vous et le patronat, notamment sur la question des seuils sociaux dans les entreprises. D'abord, une question sur le constat. Est-ce que, oui, vous reconnaissez que dans les entreprises, quand on passe de 49 à 50 salariés, je crois qu'il y a plus de 30 obligations qui tombent sur la tête du... Enfin, sur l'entreprise. Donc, on peut comprendre. Est-ce que vous comprenez que le patron hésite avant d'embaucher le 50e salarié?
D'embaucher, oui. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Vous avez vu la question. Il est bien obligé de se reprendre tellement qu'il pose une question de patron. On a l'impression que c'est Gattaz qui pose la question à Mailly. C'est un journaliste. C'est un journaliste. C'est un journaliste qui passe dans plusieurs médias. Regardez, ça donne ça sur France Télévisions, France 2.
Contre titre ce soir, la multiplication des normes est-elle en train de devenir un frein à l'activité? On parlait hier du chantier de la MAP, la modernisation de l'action publique, chantier lancé par le gouvernement. Eh bien, cette question-là en fait partie. Code du travail, normes de construction, environnement et autres. Chaque norme en soi peut paraître justifiée, bien sûr, mais au final, les contraintes alourdissent et parfois étouffent l'économie. Enquête signée, Laurent Desbonnets, Alain Location.
Le fils de Gattaz, ou Gattaz 2, ou Gattaz de retour, ou saison 2. Et encore une fois, c'est un porte-parole du MEDEF. C'est le 20h de France 2, donc tous les jours, ils prennent parti comme ça, ils se positionnent comme ça.
C'est les 35 heures, mais pas seulement, c'est aussi peut-être de remettre en question, donc c'est de mettre en procès les 35.
C'est une belle tirade, hein. ça ne dure pas très longtemps, mais vous allez voir, c'est du concentré. C'est...
Pas seulement, c'est aussi peut-être de remettre en question d'autres acquis de la gauche. Par exemple, sur le temps partiel, il y a une durée minimum 24 heures qui a été adoptée. On pourrait la faire disparaître. Il y a aussi la réflexion sur l'annualisation du temps de travail. Il y a bien entendu l'ouverture des magasins, des commerces et peut-être de tous les emplois possibles. Le dimanche, la gauche pourrait revenir sur tout cela. Et puis il y a aussi le petit propos sur les rémunérations. Ça veut dire qu'on va peut-être reparler du SMIC jeune, qu'on va peut-être parler d'un tout petit salaire pour un tout petit boulot à l'allemande. On va peut-être parler aussi, tout simplement, de moins payer les chômeurs pour les inciter à reprendre plus vite un travail. Tout cela, tous ces tabous, visiblement, sont levés au moins dans la tête
voilà, de la... C'est des tabous, si vous voulez. C'est formidable parce que vous ne le saviez pas, mais on n'a pas le droit de parler de ça. Et ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Hein, ça, c'est... On n'a pas le droit. Alors ça aussi, bon, je ne vous le montrerai pas, mais j'ai du coup un dossier tabou. On est chiant, hein. J'ai un dossier tabou. Ah bah les tabous, vous voyez, j'ai mon titre et j'ai les vidéos. C'est pas des tics de langage. C'est vraiment un genre de propagande qui avance. Alors, tous ces journalistes hein, qui avancent et qui disent qu'il faut que vous serriez la ceinture, qu'il y a trop d'avantages, il y a trop de privilèges. Alors voilà ce qu'ils font. Donc là, on est sur BFM, on est en février 2014, et il y a la grève des inspecteurs du travail. Donc vous allez voir une scène extraordinaire, très très belle, c'est ils ont invité donc quelqu'un pour parler de la grève des inspecteurs du travail, et autour, ils sont cinq blancs. Ventru, patron, et ceux... Alors c'est celle qu'ils ont invité, c'est donc une syndicaliste, une nana, et elle est black. C'est grosso modo la charge du Ku Klux Klan. La scène est assez remarquable. Hein. Mais vraiment, alors elle n'est pas handicapée. Ça aurait pu être un stigmate de plus. Excusez-moi, mesdames, mais c'est pas. C'est, vous savez bien là que je parle pas de problèmes.
Regardez ça. Le chiffre, Betty Benoît, Bernard Vigier.
Je voudrais dire que du coup, il n'y a pas.
Betty Benoît, allez, on va.
Jean-Marc, ne dis pas que c'est la majorité.
Alors, lui, c'est le Chypre. Le derrière, vous connaissez peut-être.
Vous aimez les patrons?
Vous aimez les patrons, ce genre de question, vous voyez, un inspecteur du travail. C'est vrai que c'est une question importante. Hein. Vous aimez les patrons, vous voyez, c'est, on est chez Ardisson et c'est Loana qui est interviewée. Vous aimez les patrons, non?
Alors,
il n'empêche.
Voilà, pim.
Ça voudrait dire que, du coup, il n'y a pas de règles. On n'est pas dans une relation affective.
Il n'empêche.
Le voilà. Droit.
Que vous avez.
Allez, hop, pim.
Qui d'ailleurs n'hésite pas à afficher leur opinion politique.
Voilà, donc ils dégomment les inspecteurs du travail, hein, parce qu'ils les aiment pas.
Alors, Bernard Vivier, puisque là. Ça existe. On entretient cette suspicion. On vous redonnera la parole, Betty Benoît, simplement. Bernard Vivier,
voilà, puisque là. On ne la donne pas, hein, donc effectivement, vous voyez, avec Bernard Vivier.
De pouvoir donner des amendes de la part de l'autorité administrative que sont les inspecteurs du travail. La question tout à l'heure, c'était, est-ce qu'un chef d'entreprise est injusticiable comme un autre? C'est finalement, est-ce qu'il peut faire l'objet d'amendes? Est-ce qu'il peut faire l'objet de peine de prison? Voilà, ça c'était la question.
Oui, mais bien sûr, un chef d'entreprise n'est pas un être à part.
Voilà.
Mais un chef d'entreprise n'est pas forcément, par définition, un délinquant qui s'ignore. Or, c'est très souvent ce que l'on observe dans la culture dominante aujourd'hui du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. Soyons très clairs et brutales. Aujourd'hui, une des dernières tribus marxistes-léninistes en France, ce sont les inspecteurs et contrôleurs du travail.
Voilà. Bernard Vivier, fin, léger. Vous imaginez si nous, dans un débat, quelqu'un de notre camp irait jusqu'à dire une grossièreté pareille. Vous imaginez, on se ferait flinguer. Il y aurait la une le lendemain des Échos, la une du Figaro, peut-être de Libé, contre quelque chose d'excessif, enfin de caricatural, voire de dangereux.
Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix, ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, béni soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose, mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés, des fleurons du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés, car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, au dessin demain devient peuple, société redevient peuple.
Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables.
Gilles Balbastre prépare un documentaire intitulé « Nada, nous avons des armes » sur le traitement de la résistance sociale par les médias. On peut déjà y trouver des extraits sur le site nada-info.fr. En modulation de fréquence 106,6 et sur internet campuslille.com, vous écoutez Travail ta gauche.
PTG.
Sur Radio Campus.
Les journalistes et experts des médias dominants ont parfois des conflits d'intérêts personnels pour critiquer l'attitude des capitalistes, puisqu'ils y font souvent ce que Balbastre appelle des ménages.
Alors, ces gens-là font des ménages. Alors, pour ceux qui... Vous connaissez les ménages, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas les ménages, c'est aller dans une convention, dans une opération, la plupart du temps montée par une entreprise, une institution, et être rémunéré grassement pour animer les débats qui durent entre 2 et 3 heures. Un ménage, c'est entre 5 000 et 15 000, 20 000 euros par intervention. Oui. Alors déjà, il y a un petit côté un peu corruption qui n'est pas terrible. Mais alors, il y a un deuxième truc qui n'est pas terrible, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts flagrant. Vous imaginez bien, par exemple, que Renault organise un raout à Paris avec 200 cadres, plus le patron et 3-4 dirigeants sur scène, et avec un journaliste qui fait un ménage et qui anime tout ça, sur la voiture électrique. Et après, vous apprenez, le gars est présentateur du 20h, vous apprenez que la voiture électrique de Renault est un fiasco. Comment il va présenter cette information-là, alors qu'il vient de toucher 20 000 euros pour animer un débat une semaine avant, ou qu'il va l'animer une semaine après. Alors ça, Dominique Volton, c'est un expert des médias, Conseil National du Cuir. On se demandait si c'était peut-être parce que c'était un groupe de sadomaso qui lui faisait venir en première conférence. Vous voyez. En plus, c'est vrai qu'il a une tête de sadomaso. Eli Cohen, alors Eli Cohen, CNP, Assurance, Kiriba, alors lui, tout est bon dans le cochon, hein. N'importe quel, vous allez voir, alors ça c'est quoi? C'est CCI, hein. Vous voyez, regardez-le, il est content là, il croise les doigts, il est bien content parce qu'il sait qu'il va bien boire et bien bouffer derrière. Ça, c'est la c'est Cogeb, je ne sais pas. Ça, c'est l'Union des entreprises. Vous voyez, donc il continue là. Juste, j'en avais une, l'anglais. Hein. L'anglais encore.
Il y a des sachets plastiques à votre disposition.
L'anglais encore. L'anglais encore. Alors voilà, je voulais vous montrer. François Lumière, c'est le congrès des boulangers. Il y a les mecs qui ratissent tout, vous voyez. Bon, encore faire le congrès des experts comptables, vous voyez, c'est quand même des experts comptables. Non, c'est les boulangers. Vous voyez, c'est, tout est bon dans le cochon. Les journalistes vedettes, les experts, les éditorialistes œuvrent. Et la neutralité et surtout le degré de corruption de ces journalistes. Ce qui quand même pose problème, enfin, plus que problème. Ben, ce degré de corruption, ça se passe au Cameroun, on est crevé de rire. Hein. C'est République bananière, hein. C'est chez nous. Alors, je le fais volontairement parce que oui, tous pourris. Mais pas tous pourris dans le sens de l'extrême droite, bien entendu. Tous pourris parce que de gauche, on peut dire oui, votre système est pourri. Et favorise, avec cette prédominance de l'argent, des comportements pourris. Il ne faut pas avoir peur de dire ces mots-là. Ce n'est pas parce que Marine Le Pen dit « ils sont pourris » qu'on n'a pas le droit de répéter « ils sont pourris ». Le niveau de combat, d'agressivité ou de violence des propos de la classe ouvrière pendant un certain nombre de décennies était à la hauteur de la violence qu'ils subissaient. Il est grand temps peut-être de se réapproprier ce langage de contestation, de colère, de révolte face à un système qui favorise un tel système. L'importance des médias actuellement, ce n'est pas ce « what ». C'est pas, ouais, voilà, il faut faire avec ce genre d'état des lieux. Non, non, on n'a pas à se faire avec un tel état des lieux. On aura l'occasion peut-être d'en parler après, de la gravité d'un tel système.
Laurence Moriaucourt nuance le tous-pourrisme de Gilles Balbastre et insiste sur la précarité du métier de journaliste. Et elle vante les possibilités du numérique sur le plan de la pluralité de l'accès à l'information.
La question de ces gars-là, pour moi, alors, ils me hurleraient dessus, mais pour moi, ce n'est pas des journalistes. C'est des idéologues, voilà. Ils ont une carte de presse, tant mieux pour eux, mais ils s'en servent même pas, puisqu'ils vont jamais sur le terrain. Ils n'ont jamais à la montrer, tu vois. Nous, on se bat pour l'avoir, mais au moins, on s'en sert, on essaye. Le problème, et avec Gilles, on en parle hein, souvent, c'est qu'après les nouveaux chiens de garde, le tous pourri, il touche tout le monde. Même vous, en école de journalisme, hein, vous êtes, je sais pas, il y en a là, hein, des étudiants, je reconnais ce qu'on avait croisé à l'humain. Même vous, quand vous êtes, vous savez très bien que le métier de journaliste, il fait moins rêver qu'il y a 30 ans. Hein. Vous le savez. Il y a une image dégueulasse, il y a surtout de la précarité qui vous attend, ça vous le savez. Et à cause de quelques grandes vedettes comme ça, eh ben, tout le monde s'imagine que vous allez avoir un métier formidable, où vous allez gagner plein de pognon à rien foutre. Sachez que ça n'est pas vrai.
Oui, ça,
que vous allez bosser, oui, vous le savez tous, vous allez manger de la vache enragée, vous allez être payé suffisamment bien pour être en forme et avoir une belle chemise et revenir le lendemain, mais c'est à peu près tout, quoi. La presse, dans son ensemble, souffre d'un gros problème qui est la diffusion, je ne vais pas vous l'apprendre, vous avez écouté même le Figaro, ça les emmerde, hein, que quand vous allez dans le Puy-de-Dôme ou dans un village du Cambrésis, vous trouvez que la Voix du Nord au bistrot du coin en vente. Les quotidiens nationaux ne sont pas vendus. Par contre, on a une chance en France, c'est d'avoir des journaux d'opinion. Le PTB qui était là disait, en Belgique francophone, les gens ils regardent TF1 pour avoir les infos, mais eux, ils n'ont pas de presse d'opinion qui va contrebalancer. Hein. Attention, hein, pas... Enfin, je veux dire, quand Liberté ferme, quand un journal ferme, quel qu'il soit, genre, hein, c'est la démocratie qui recule. Et dans les pays où ils n'en ont pas, ils sont très contents d'en trouver, les francophones. Je peux vous dire une chose qui est vraie. À l'UMA, on a donc un site internet qui vaut ce qu'il vaut, qui est loin d'être le meilleur de la presse française. Mais on voit l'origine des clics. Vous savez, les villes d'où on clique. Première ville d'où on clique, Paris. Deuxième ville d'où on clique, Tunis. On est utile aux Tunisiens. Mais tout ça, on le découvre avec Internet, parce qu'on n'est pas vendu en Tunisie.
Et c'est là aussi où il faut contre-attaquer et ne plus être assujetti à cette horde médiatique qui vous oblige politiquement et syndicalement à nous poser les questions que nous ne nous posons pas.
Pour Balbastre, c'est la lutte des classes qui s'exprime dans les médias dont le discours véhicule une idéologie qui consiste, entre autres choses, à piétiner le code du travail.
Il y a ces gens qui appellent à la concurrence. On crée des monopoles, pas de services publics, puisqu'ils étaient justement pour casser des monopoles de services publics, mais des monopoles privés. Le Crédit Mutuel possède toute la presse de l'Est de la France. toute la presse alsacienne, toute la presse de la Lorraine, Le Progrès, Le Dauphiné, Vaucluse Matin, toute la presse de l'Est. L'Ouest-France, l'Ouest, Sud-Ouest, avec le Midi, Centre-Presse, tout le Centre, et les autres médias sont détenus par 7-8 groupes, que ce soit les groupes, les journaux d'hebdomadaires, hein, les magazines, etc. C'est un état de fait, et c'est assez particulier à la France. Donc je veux dire que, effectivement, on comprend mieux dans quel état sont les médias. C'est des médias qui sont détenus par des grands groupes industriels et financiers, par des patrons qui détiennent des banques ou des groupes industriels. Ils ont tout intérêt que le code du travail saute. Parce qu'ils ont des dizaines de milliers de salariés qui travaillent dans leur boîte, aéronautique, BTP. Et donc, ça leur fera des gains encore plus conséquents d'avoir des gens qui travaillent plus tard, des gens qui travaillent le dimanche, etc. Donc, leur objectivité journalistique est quand même pas mal conditionnée par leur réalité de patron d'entreprise. Je pense que trop longtemps, les partis politiques qui ont une aspiration différente de la société ont laissé filer l'état des médias tel qu'il est. Le Front de Gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste, la CGT, etc., ont laissé abandonner un peu, par un jeu de rapport de force, je ne dis pas volontairement, par un glissement, cet état de fait. Se ressaisir de cette question-là pour en faire quelque chose de politique. Je peux vous dire que les nouveaux chaînes de garde a amené un début de réponse. C'est le documentaire qui a été le plus regardé en France, vous ne le savez peut-être pas, c'est le documentaire qui a fait le plus, français, qui a fait le plus grand nombre d'entrées en salle de cinéma depuis 10 ans. Ce combat-là, une partie en tout cas du monde politique ou syndical s'en est peu à peu emparée. On aura l'occasion peut-être de parler de ce qu'on a fait maintenant, ce qu'on est en train de faire avec Nada-Info. J'ai de plus en plus de sollicitations. J'étais avec Sud la semaine dernière. Je pars à Montauban avec la CGT Cheminot. J'étais avec la CGT EDF à Nice. J'ai de plus en plus de sollicitations de la part de fédérations, de syndicats, etc., de sections, sur cette question-là. Et sur le fait de, il est grand temps qu'on se ressaisisse de ça et qu'on mette en place, effectivement, une logique de combat, une logique de compréhension et de contre-attaque face à ce monde des médias. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fondamental. Ils nous ont transformés, je finirai avec ça, ils nous ont transformés de citoyens, je n'aime pas ce mot-là, mais éclairés, en consommateurs, au mieux actifs, au pire passifs.
C'est Travail ta gauche, le lundi de 8h à 9h, tous les 15 jours.
Enfin, Gilles Balbas, on nous explique ce qu'est le métier de journaliste authentique, que le site nada-info.fr perpétue.
Tout ce qui a été fait dans la nouvelle chaîne garde, c'est un travail d'enquête. Bien sûr, c'est raconté d'une certaine façon, sardonique, etc. Parce qu'on a tellement marre qu'à la limite, on envoie des scuds maintenant. Mais on peut faire aussi un travail qui est un travail d'enquête, un travail d'investigation, etc. C'est fondamental. Je vais vous dire, le travail d'investigation, le manque de travail d'investigation, c'est ce qui tue la presse française. C'est pas Internet. C'est ça aussi. On nous a enlevé nos fondamentaux. On vous enlève les fondamentaux, vous les jeunes journalistes, qui est au fond d'aller enquêter, d'aller sur le terrain, d'aller, pas que sur le terrain parfois, d'aller aussi regarder, d'aller comparer, d'aller regarder. Les cachetons de Deli Cohen, je les ai eus en allant sur Internet et en allant dans les rapports financiers des boîtes. C'est du travail d'investigation, mais c'est mélangé avec aussi du travail de terrain. Donc ça, j'insiste d'une façon importante, je ne suis pas un genre, je suis contre la presse alternative. Non, mais je le dis simplement, c'est pas contre vous, hein. Mais je suis contre la presse alternative, et c'est ce qui m'a valu des camarades de la Brique, ils comprenaient pas. Je suis pour la presse tout court. Et je considère pas que la Brique est moins une presse que le Figaro. Parce que le Figaro, c'est un peu derrière, et que c'est pas très joyeux ce qui se passe à l'intérieur du Figaro. Donc ce travail du journalisme, il est de moins en moins possible, et Jean Stern l'explique très bien, dans la majorité des médias, parce que les enjeux ne sont pas ceux-là. Donc ça, c'est important. Et nous, on s'est dit, on va mettre en place vous connaissez les AMAP, hein, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, et bien on a créé, NADA, la première AMIP, Association pour le maintien de l'information progressiste. Et au fond, comme les AMAP fournissent des paniers dans lesquels vous trouvez des poireaux, des choux, etc., et bien on peut fournir des paniers que vous préachèterez, mettons 3 ou 4 dans l'année, et dans ce panier, il y a un documentaire, un livre, un journal, bien fait sur des informations bien travaillées par des journalistes professionnels et par des professionnels de l'information qui traitent une information sérieusement. L'idée a pris et l'idée marche, ou commence à marcher. Donc ça, c'est important. On a un site, vous pourrez venir chercher la petite carte de visite qu'il y a. On a un site, et ce site, parce que, vu la situation qui est quand même un peu désastreuse, on a décidé aussi de pratiquer de l'humour. Ce site, vous avez vu, je vous ai montré la Claude Toujours, on a des petits scuds qu'on envoie, qui font 2-3 minutes. Au même titre que la malbouffe, il est grand temps de se révolter contre Malinfo. Parce que les deux polluent le système, nuit à l'environnement et nuit à la santé mentale des gens. Et c'est vrai que dans ces débats est venu un slogan qui était ben, au même titre que la malbouffe, luttons contre la malinfo, et au même titre qu'on peut réclamer une bouffe bio, réclamons une info bio, fabriquée par des journalistes élevés en plein air, entièrement nourris à l'investigation, sans trace de libéralisme, de conservateur et de publicité, voire de conservatisme. Et vous voyez que l'analogie marche bien. Et qu'elle peut faire sourire, etc. Parce qu'effectivement, cette problématique rencontre au fond des choses de dégradation profonde, de consommation, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau du cerveau, qu'on est en train de mettre en place. À chaque fois qu'il y a un meurtre, un viol d'un récidiviste, c'est mis à la une. Il y en a 10 par an ou 15 par an en France. Vous savez, il y a deux choses qui sont à la une des médias depuis quelques semaines, quelques mois, c'est le djihad et Ebola. Alors, je vais vous dire juste en deux mots, hein. Ebola, il y a à peu près 3500 morts. Il y a 1 200 000 morts du paludisme chaque année dans le monde depuis des décennies, Et encore, il y a 5 ans ou 8 ans, c'était 1 800
000. La grippe, voilà. En France, juste la grippe.
Oui, voilà. Il y a 3500 morts du virus Ebola. Deuxième chose, et je vous dis là, c'est pas encore une fois un complot, etc. C'est que les médias ont une... ça, c'est encore notre débat qu'on aurait pu faire. Sont tombés dans un mercantilisme sans nom. Et pour eux, y a des produits qui se vendent, et la peur du virus, la peur en général, est un produit qui se vend. Et ils vont aller là-dessus, non pas par idéologie soi-même, ça produit une idéologie au final, mais par mercantilisme. C'est bon. Ebola, c'est bon. On en fait la une. Et je peux vous dire, on en fait la une de tous les médias du monde. En plus, il y a quelques images un peu spectaculaires. Une en Afrique, l'autre avec les mecs maintenant qui sont tout en blanc avec des masques. Donc vous mettez ça en une. J'en ai encore récolté. Il y en a plein. Les Américains, les Espagnols, etc. Deuxième, le djihad. Oui, je veux bien. Vous savez, il y a quand même deux chiffres qu'on peut citer. Selon le département américain d'État, il y a entre 14 000 et 20 000 morts par an de terroristes dans le monde. Le département d'État américain, donc le chiffre n'est pas minoré, hein, c'est pas à eux qui vont commencer à essayer de minorer ça. Ça fait 45 morts par jour. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a 2 300 000 morts d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le monde. 2 300 000 morts par an. Ça fait 6 300 morts par jour. 45 morts de terrorisme. À votre avis, de qui on a le plus peur de mourir? De Mittal ou du remplaçant de Ben Laden? Eh bien, du remplaçant de Ben Laden. Et dans la réalité, on a des risques de mourir le plus de qui? De Mittal. Et pourtant, les médias vendent, mettent en avant constamment. C'est-à-dire que moi, je fais le tour, c'est impressionnant. La presse quotidienne régionale cherche son judaïsme partout. Quand il y en a un, le bien public titre. À Dijon, ils ont trouvé un, la moutarde leur montonnée. Et alors là, ils le mettent, hein, le djihadiste là. Et quand c'est la montagne, il y a le djihadiste auvergnat. Mais je pourrais vous les montrer. Je fais des conférences, on est écroulés de rire. Je vais faire un épandage là-dessus. Mais c'est à celui qui trouve son djihadiste. Il les cherche comme des truffiers.
Mais alors que faire face à cet impérialisme idéologique de la fabrique de l'opinion? Comment mettre en place cette logique de combat? Et puisque les partis seraient dépassés, de quel côté faut-il creuser? C'est Laurence Moriaucourt qui répond à cette question.
Et c'est en ça que moi, l'Internet, je pense que c'est un pouvoir qu'on a tous entre les mains à plusieurs conditions. C'est qu'on se forme, pas forcément en faisant tous des études de journalisme, mais qu'on se forme à la lecture et à l'écriture des médias sous toutes les formes qu'elles ont. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'infographie partout. Lire une carte, lire une photo, lire un film, et savoir le faire soi-même, c'est encore mieux. Je vous rappelle que la campagne du Front de Gauche, c'était « Prenez le pouvoir ». Que la presse, c'est le quatrième pouvoir, bah, prenez aussi ce pouvoir-là. Enfin, moi, personnellement, la laissez pas à des gars qui font... à des hommes de ménage, puisque c'est ça, des hommes et des femmes de ménage, là. D'accord? Prenez le pouvoir, allez-y. C'est cher, des études de journalisme. Hein, vous les payez cher. Mais il y a moyen... Enfin, j'ai coutume de reprendre ce truc, vous savez, c'est... Au XXe siècle, la société française s'est donnée pour mission d'apprendre à lire à tout le monde. Au XXe siècle, l'école, elle a appris à lire à tout le monde. Et bien, le XXIe siècle, l'enjeu, c'est d'apprendre à tout le monde à écrire. À écrire vraiment. Faire passer une idée, faire passer une information. Et puis, à parvenir à la diffuser. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce que vous avez tous lu Liberté Hebdo. Vous l'avez vu, ce débat. Sur Internet, merci. C'est ça aussi, quand je veux dire savoir écrire. C'est savoir passer dans les médias. Je vais vous raconter une autre histoire. Les médias vous manipulent, ok. J'étais à la CEITA Carquefou la semaine dernière. Le gars de BFM TV, ça devait être la première fois qu'il venait sur un piquet de grève. Et en plus, il y avait 6 personnes en grève de la faim. Il arrive et il parlait tout doucement, comme s'il avait affaire à des malades. Des malades. Bonjour, monsieur. Avec sa caméra. Je n'aurais qu'une question. Ça va ? Et le gars en face, il le manipule. Oh non, ça va pas du tout. J'ai froid, j'ai faim, j'ai mal partout. Puis ma femme est triste de me voir arrêter de manger. Bref, on savait plus qui. Enfin, le truc, hallucinant. Le même mec, moi j'y vais, je lui dis excusez-moi, mais vous pensez que c'est une solution d'arrêter de vous alimenter pour dénoncer le fait que les actionnaires se gavent? Il me dit, non, mais on n'est pas dupes, hein, on sait très bien que c'est pas une solution. Mais tu vois, c'est pour qu'on parle de nous. Et le gars, il n'avait plus du tout ni froid ni mal. Après, je ne veux pas vous dire qu'au bout de 18 jours, il s'était plus mal. Mais un journaliste, il trouve ce qu'il va chercher. Hein.
Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Écoutez, clave, nous clamez à vous autres. Voyez qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du vautour. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse lointaine.
C'est des conneries.
Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.
Dans cette émission, vous avez entendu Kenny Arcana, V pour vérité.
C'est toujours Radio Campus en 6,6, campuslille.com. Sur Internet, on trouve un de ces nouveaux journalistes, Yacine Elzaz, qui a appris à écrire et qui traite, d'une façon peu commune, d'un sujet politique de référence, l'agression israélienne à Gaza. C'était en juillet dernier.
Bonjour à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo suite aux événements tragiques de ces derniers jours. Les bombardements à Gaza. J'en vois certains déjà me dire...
Non mais mec, on sature quoi. C'est bon, tout le monde ne parle que de ça sur les réseaux sociaux. On voit des photos dégueulasses. C'est bon quoi. Hein? Ah, c'est bon.
En effet, y a rien d'agréable à voir des enfants transformés en kefta. Des morts, du sang, c'est normal. Des morts, du sang, mais... Permettez-moi d'attirer votre attention sur un truc. Si on s'en tient à la version officielle des médias, on informe à l'oreillette qu'Israël serait actuellement en train de se défendre contre des tirs de roquettes émanant du Hamas, menaçant des enfants, des femmes. Oui, tout à fait, oui, c'est horrible, oui. Donc, si personne n'en avait parlé sur les réseaux sociaux, on aurait tous regardé les enfants en disant « Bah écoute, c'est normal, on les attaque, ils se défendent, c'est une guerre, c'est normal. » On ne peut pas utiliser le mot « guerre », c'est pas une guerre. Les chiffres le prouvent. Les Israéliens ont 78 hélicoptères de combat, les Palestiniens 0. Ils ont également 350 avions F-16, les Palestiniens 0. Ils ont 14 navires de guerre, les Palestiniens 0. 48 patrouilleurs, les Palestiniens 0. Enfin, Israël a la bombe atomique, la bombe atomique. Les Palestiniens, eux, ont des roquettes. Il y en a qui vont me dire, moi, je mets mon frère, le conflit dure depuis 60 ans. Personne ne veut faire la paix. Israël est toujours en colonisation. La colonisation, pour ceux qui ont regardé Pocahontas, hein, c'est assez simple. Le concept, c'est... bonjour. Oui, alors les terres, là, oui, je sais, c'est chez toi, tout ça. Mais en fait, non, il y a eu un changement de règlement. Maintenant, c'est chez nous. Voilà. Ah non, on a des chars, on a des armes, on a des... Voilà. Sans compter que... Il suffit de regarder les cartes des frontières depuis 46 à aujourd'hui pour se rendre compte que petit à petit, la Palestine disparaît au profit d'Israël. De plus, c'est Israël qui viole les accords de l'ONU en commerçant notamment des produits issus des territoires disputés. Ou je dirais plutôt des territoires occupés. Les mecs, ils vont au Mali, ils vont en Centrafrique pour assurer la paix, et là, ils se positionnent même pas clairement sur un viol des accords de l'ONU et un massacre de population. Arrêtez de foutre de la gueule du monde. Ah oui, autre chose, j'en viens au fameux Booba. Le mec a quand même déclaré, je cite, « Tous ceux qui croient être dans leur Palestine avec des posts sur Instagram, sur Facebook, vous faites vraiment pitié, bande d'hypocrites. Tu voulais aller les aider? Allez sur le terrain, bande de truffes. Neuf de ici. » Alors là, c'est le summum. Le mec demande aux citoyens d'arrêter de faire leur devoir d'information. Voilà, il vous demande de la fermer. Fermez-la. Voilà, je veux pas en entendre parler, fermez-la. Il y a des mecs qui sont dit, ah ouais, il a raison, je like. Les médias font pas leur travail. Alors, c'était gênant avant parce qu'on était obligé de se connecter sur les chaînes arabes ou autres. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a les médias sociaux. Les journalistes, c'est nous. Il suffit de propager l'information et les calculs prouvent qu'on a une portée de plus de 7 millions de personnes juste en utilisant des hashtags. Donc oui, hashtag Free Palestine et oui, hashtag Free Gaza. Informer, c'est agir. Il nous dit, allez-y vous-même, allez là-bas pour les défendre. Il n'y a rien de plus hypocrite. Tout le monde sait que l'État d'Israël, c'est l'État le plus sécurisé au monde. Il dit, pas de politique sur les réseaux sociaux. Le fait de demander qu'on arrête de parler de ça, c'est déjà un geste politique, Booba. Garde de te foutre la gueule du monde. En gros, le mec, il se prend pour Morpheus dans Matrix. Le monde est horrible, Neo. Je te propose la pilule bleue. Cette pilule, elle te permettra d'en se vivre dans un monde d'illusions où les massacres à Gaza n'existent pas. Alors arrête de poster tes conneries sur Facebook et Twitter. Grâce à cette pilule bleue, mon ami, tu vivras une vie de rêve et tu resteras dans la Matrice. Il y a aussi la pilule rouge. Celle-là, en revanche, elle est un peu plus chiante. Parce que c'est la pilule de l'information, la pilule de la mobilisation, et la pilule de l'action. Alors c'est à toi de faire ton choix, mon con. Alors c'est vrai qu'à la fin, on va me dire, ouais, c'est bien beau, toi aussi t'ouvres ta gueule, toi aussi tu fais du bruit, mais ta vidéo, elle va changer quoi concrètement? J'ai envie de vous proposer quatre trucs. Le premier, c'est de faire des dons. L'association Baraka City, dont je parlais tout à l'heure, propose des dons pour venir en aide aux familles et aux enfants à Gaza directement. Je vous invite à aller sur le site de BDS pour prendre connaissance de tous les produits à boycotter. Il faut boycotter tout simplement. Les empêcher de s'enrichir sur notre dos. Je vous invite aussi à boycotter la marque de Booba Uncut. Le mec aime l'argent, il le dit tout le temps. Du bif, du bif. On va arrêter de lui donner notre bif. Le dernier, c'est de continuer à informer les gens. Continuez à leur montrer ce qui se passe. N'hésitez pas à partager des infographies, à partager des témoignages, des vidéos, des photos de bombardements. On a passé des années à nous montrer tous les jours, tous les ans, des photos de l'Holocauste. Ça m'a pas donné forcément envie d'aller à Auschwitz. Par contre, ça m'a convaincu d'une chose. Les nazis sont des monstres. Aujourd'hui, en regardant les vidéos, les photos et les témoignages de ce que fait l'armée de Tsahal, l'armée israélienne, je vous le dis, les Israéliens sont des monstres. Alors à vous d'agir.
Petite boîte, très étroite, petite boîte, faites en tiki-taki, petite boîte, toute pareille. Y a des rouges, des violettes et des vertes, très coquettes, elles sont toutes faites en tiki-taki. Elles sont toutes pareilles. Et ces gens-là dans leur boîte vont tous à l'université. On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, tout pareil. Y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous faits de tiki-taki. Ils sont tous pareils. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font des jolis enfants qui vont tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sortent tous pareils. Les garçons font du commerce et deviennent pères de famille. Ils bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes, tout pareil. Puis ils règlent toutes leurs affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes faites en tiki-taki qui sont toutes, toutes pareilles.
Et c'est là aussi où il faut contre-attaquer et ne plus être assujetti à cet ordre médiatique qui vous oblige politiquement et syndicalement à nous poser les questions que nous ne nous posons pas.
On Ça,
c'était Graham Allwright, petite boîte dans Travaille ta gauche, l'émission qui s'adresse à votre entendement sur Radio Campus, les premiers et troisièmes lundi matin 8h de chaque mois.
On vous a donné des extraits du débat qui a eu lieu au local, les lois du Parti communiste français, avec Gilles Balbastre, Laurence Moriaucourt et Ludovic Finet. Souscrivez au documentaire Nada sur nada-info.fr. Nous avons des armes.
Vert sans rouge, rien ne bouge, rouge sans vert, la planète fout le camp. C'est nous entendrons Daniel Tanureau qui a écrit notamment l'impossible capitalisme vert chez les empêcheurs de penser en rond. Ce sera lundi 17 novembre à 8h sur Radio Campus.